elle vit quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Pour elle, la banlieue, c'est toujours la zone, même si au fond de ses yeux, y'a un peu de sable jaune.
Qui est au complet. Elle est même élargie puisque Corentin nous rejoint avec Ludo aujourd'hui à la technique. Eh bien, comme chaque année, donc plus maintenant 3 ans, eh bien, nous allons programmer diverses émissions tous les vendredis, tous les quatrièmes vendredis du mois. Entre 20h30 et 21h30. Et nous avons préparé cette année une série de thèmes larges, vous verrez, puisqu'on va pouvoir parler de réduction des inégalités, de surveillance, d'école, de commerce équitable, donc un programme tout à fait éclectique. Alors aujourd'hui, l'émission est présentée par Didier et Mathieu, et elle sera consacrée à la question des banlieues, problème des banlieues. Alors, tel qu'il peut être traité dans les médias et tel qu'il peut être traité par les autorités politiques. Et pour cela, on a 2 invités qui sont Malika Zediri. Bonjour Malika.
Bonjour.
Militante associative et qui connaît les banlieues depuis maintenant beaucoup d'années. Et puis Thomas Crisbaum, qui est sociologue, chercheur associé à l'Institut de sciences sociales du politique à Normalsup Cachan. Bonjour Thomas.
Bonsoir,
absolument, et qui a travaillé sur les politiques urbaines d'intégration, en particulier des minorités ethniques en France et aux États-Unis. Bien, voilà un petit peu le sujet de cette soirée. C'est vrai que traiter la question en parlant, comme je l'ai fait, du problème des banlieues, c'est déjà quelque part donner, si ce n'est une réponse, en tous les cas, une orientation à la discussion. Est-ce que les banlieues, c'est un problème? On essaiera de d'y répondre. Et puis, on essaiera peut-être, alors, pendant cette heure, d'aborder, disons, 3 grands thèmes, si vous êtes d'accord. Le premier, revenir un petit peu sur, bon, les banlieues, qu'est-ce que c'est, finalement, hein? On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est exactement? On sait par ailleurs que des politiques ont été menées maintenant depuis de très nombreuses années. Il y a pas mal... Pas mal d'argent est investi dans les banlieues et on aimera bien un petit peu vous entendre pour savoir finalement quel bilan tire, hein, à la fois des politiques qui ont été menées et aujourd'hui peut-être, alors depuis maintenant 2 ans, un nouveau gouvernement est aux manettes, savoir un petit peu s'il y a des réformes qui ont été mises en place et qu'est-ce qu'on peut penser de ces réformes et puis peut-être dans un troisième temps, si on a encore un petit peu de temps pour ça, voir un petit peu quels sont pour les uns et pour les autres, hein, pour l'un et pour l'autre, pour l'une et pour l'autre, eh bien quel est un petit peu... votre avis sur ce que l'on pourrait faire au regard de ce bilan que nous avons tiré ensemble. Voilà un petit peu le menu d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on commence directement en interrogeant Thomas alors sur un petit peu cette notion de banlieue. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, d'un point de vue sociologique, mais plus généralement, bon, qu'est-ce qu'on met derrière? Et puis Malika, on passera la parole à Malika ensuite qui pourra compléter.
Oui, bon, les banlieues. Ce qu'on appelle le problème des banlieues est très largement une représentation. C'est une construction, ça appartient à un certain imaginaire social. Et je dis bien social parce que la réalité des banlieues est beaucoup plus sociale qu'urbaine ou géographique. Certes, si on revient à l'étymologie du mot banlieue, qui remonte au Moyen-Âge, c'était l'espace d'une lieue qui ceinturait les villes et sur lesquelles le seigneur exerçait sa juridiction, son droit de ban. Si on adopte une définition géographique de la banlieue, si l'on considère que c'est la ceinture agglomérée des villes, ça n'a pas grand sens, parce que du coup on mélange différentes situations urbaines qui n'ont pas grand chose à voir entre les ex-banlieues rouges...
Il y a des banlieues un peu plus chics que d'autres.
Et voire des communes résidentielles hyper huppées. On ne doit pas non plus mélanger la question de la banlieue avec l'ensemble des territoires dits périphériques. Avec la banlieue, on n'est pas dans un strict rapport centre-périphérie. La preuve étant que la plupart des quartiers ciblés par ce qu'on appelle la politique de la ville, enfin la plupart,
on y reviendra tout
une
à
bonne
l'heure,
partie,
ouais,
se trouvent dans les villes-centres. Si vous allez à Marseille, si vous allez à Bordeaux, si vous allez dans beaucoup de
il n'y a
de,
pas
de
Paris,
villes,
les dans
cités
le centre ville.
Se trouvent dans les villes-centres et pas dans les banlieues. Le problème des banlieues a été construit par rapport à une situation assez spécifique, qui est celle de l'Île-de-France et celle de la région lyonnaise également. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, la banlieue, c'est d'abord un discours, c'est une représentation, et la banlieue, si vous voulez, c'est utiliser un vocabulaire spatial, géographique, urbain, pour désigner une situation sociale et une situation ethnique. Donc c'est un vocabulaire de désignation, qui a une fonction de désignation, de classement des différents lieux dans la ville en fonction des gens qui vivent dans ces lieux. Et de ce point de vue, la banlieue a des tas d'équivalents, les ghettos, les cités, les quartiers dits en difficulté, à problèmes sensibles, etc. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui, on dit les quartiers, sans même leur accoler de qualificatif, tellement le mot est chargé de sens lui-même.
On a longtemps parlé de quartier difficile.
Pour me résumer ce que désignent tous ces mots qui sont des équivalents, c'est en quelque sorte ce qui est spatialement visible de ce qu'on pourrait appeler l'altérité sociale ou l'altérité ethnique. C'est-à-dire ce qui, dans le regard de la société majoritaire, est anxiogène du fait de sa différence, du fait de d'une marge qu'on aimerait vouloir rentrer dans la norme.
Malika, pour toi, la banlieue, qu'est-ce que ça représente ?
D'abord, c'est vaste, et puis il n'y a pas une banlieue, il y a des
comme
banlieues,
ça a été dit, oui.
Comme ce qui vient d'être dit, je suis assez d'accord. Après, moi, la banlieue, c'est... D'abord, j'aime bien. Moi, souvent, je me définis comme une banlieusarde. Et c'est pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, la banlieue, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de gens. Enfin, moi, je parle de la banlieue parisienne, hein, et je parle notamment des endroits que je connais bien.
Celle que tu connais.
C'est-à-dire le Val-de-Marne, un peu la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, etc. Des endroits où j'ai travaillé ou vécu. Et et notamment, c'est pour moi, quand je dis banlieue, je pense à des endroits précis, des cités. La cité, c'est pas péjoratif. Je dis souvent, moi, je suis de telle cité, pour dire ça.
Une appartenance, quelque part.
Oui, puis, ouais, c'est là
un lieu de vie.
Un lieu de vie qui n'est pas forcément désagréable. Hein. Il y a plein de gens qui vivent bien en banlieue. On peut s'y épanouir, etc. Mais, une fois que j'ai dit ça, ça ne suffit pas. Parce que, moi, j'y vis depuis toujours. La première fois que j'ai atterri dans une cité, j'avais 7 ans. Je dirais pas mon âge aujourd'hui, mais ça fait
quelques années.
J'ai fait un paquet de cités parce que c'est aussi l'endroit en banlieue où loge toute une série de catégories populaires, de milieux populaires, de gens qui ne sont pas propriétaires. Enfin, je crois que déjà ça clive, ça pose les choses. Donc des gens qui payent un loyer. La banlieue, notamment pour celle que je connais, s'est développée autour des lieux de vie. Les lieux de vie, c'était les endroits où il y avait du boulot. Nos pères, ils allaient bosser à l'usine. Enfin, je veux dire, aussi simplement...
C'est vrai, autour de Poissy, par exemple.
Poissy. Enfin, moi, mon père, il bossait à l'usine à Ivry. Il revenait en autobus à Vitry. On voyait arriver. Enfin, je veux dire, voilà, c'était des lieux de vie.
Et
ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a plein de gens qui reviennent en bus, mais qui reviennent pas forcément du boulot, loin de là. Et c'est aussi un des endroits... Où à partir des années 80, enfin moi je me rappelle gamine, hein, c'est pas pour faire la vieille, mais gamine, la cité c'était super sympa. Moi j'ai eu une enfance de rêve. On a joué, on était 40, 50, 60, enfin c'était le panard.
Et c'était les années 60.
C'était les années 70.
70.
Et voilà, la première crise pétrolière, ça se casse la figure et on voit apparaître. Comme c'était une population sacrément populaire. Pendant ma mère, elle nous disait, hein, je dis ça, c'est pas pour, mais les filles allaient se marier, les garçons allaient bosser à l'usine. Enfin, ça fonctionnait comme ça. Quand les usines elles sont fermées les unes derrière les autres, ça a fait des plaies pas possibles dans les familles. Et c'est resté, parce que c'est pour ça que j'en arrive à aujourd'hui.
Les usines sont parties et les logements
sont là. Les cités merdiques, moi j'habitais longtemps j'ai habité dans plusieurs cités merdiques, mais j'en ai vu une devenir totalement merdique. Qui l'est toujours encore aujourd'hui. C'est-à-dire les endroits où, moi, du temps de ma scolarité, quand j'ai accédé en 6e à Balzac, à Vitry-sur-Seine, c'était déjà un collège super difficile. On est en 2014, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a, dans des lieux, malgré des politiques de la ville, en veux-tu, en voilà, des couches. Alors, bien sûr, on peut pas dire, il s'agit pas d'ailleurs, je me permettrai pas de dire ça, que tout ça c'est pourri, ça a servi à rien, mais n'empêche,
on y reviendra.
Au bout de tant de temps, on en est toujours au même point. C'est-à-dire, dans les mêmes lieux, c'est toujours difficile, voire encore plus difficile. Je veux dire, je pense à l'école, notamment, avec le développement de l'échec scolaire. Je pense à la situation vis-à-vis de l'emploi, la situation vis-à-vis de la formation, etc. On est, on a une partie de la population qui est en panne et coincée.
Je te coupe, Malika. Je voudrais revenir sur un point que Thomas a évoqué, que tu as fait un petit peu tu as dit à un moment donné, question des banlieues, question ethnique. J'aimerais qu'on creuse un peu cette mm-hmm. affaire-là, parce que on n'est pas dans le cas américain où on a des ghettos qui sont purement des enclaves de minorités, bon, noires ou hispaniques, comme c'est le cas aux États-Unis. On est dans une situation qui est quand même un peu différente. J'aimerais bien qu'on voit ensemble si aujourd'hui on peut dire qu'il y a véritablement, est-ce qu'on peut tirer un trait d'égalité entre banlieues, celles dont on vient de parler, hein, celles qui sont autour de Paris, celles qui sont au centre de Marseille, par exemple, et minorités, enfin, en tous les cas, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'une grosse partie des... Enfin, c'est une interrogation que je pose, hein, parce qu'une grosse partie des habitants des cités, des quartiers populaires, dégradés, l'immigration s'est quand même terminée dans les années 70, globalement, hein, 1970. C'est essentiellement des deuxième, troisième génération. Alors, quel est le rapport à l'origine ethnique des populations qui sont... Alors, on a eu effectivement une vague d'immigration africaine, peut-être, dans les années 80, 90, peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire on est dans une situation qui quelque part s'apparente à la situation américaine, ou est-ce qu'on est quand même dans une situation différente?
Alors, sur cette question, évidemment, il y a une spécificité états-unienne, comme il y a une spécificité française, et le ghetto noir a des particularités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Bon, et comme tu le soulignes justement, une des différences majeures entre le ghetto noir et les banlieues françaises, c'est le caractère multiethnique de nos banlieues, tandis que le ghetto noir est beaucoup plus homogène par définition. Cela étant, dans le contexte américain, il y a aussi beaucoup de quartiers multiethniques qui seraient éligibles à une politique de la ville identique à la politique française. Et inversement, on ne peut pas nier qu'en France, il y a quand même des phénomènes de ségrégation ethnique assez prononcés. Tout dépend à quelle échelle on se situe, mais à l'échelle d'un immeuble, d'un patrimoine, d'une cage d'escalier, voire parfois d'un quartier entier, ce qu'on peut appeler les minorités ethniques sont majoritaires, très majoritaires, voire dans certains cas limites comme Montfermeil en région parisienne. On est là dans la configuration, alors je ne sais pas si le terme ghetto est adapté, mais en tous les cas, il est évident que dans les perceptions, il s'agit de ghetto. Et justement, c'est cette affaire des perceptions qui m'amène à aborder le second point de ta question, c'est-à-dire la question des descendants d'immigrés. Évidemment, les descendants d'immigrés sont français.
Sont-ils français, toi et moi ?
Voilà. Mais on les ramène incessamment à leurs origines. On continue de les qualifier comme enfants de l'immigration, etc., alors qu'ils n'ont pas de lien, eux, avec l'immigration. Et tout ça participe de catégorisation, de représentation, de système de classification.
Mais dit autrement, est-ce que c'est une question sociale ou est-ce que c'est une question ethnique, quoi? C'est un petit peu ça qui est derrière. Parce que on voit bien que certains utilisent la question ethnique comme repoussoir. Alors que finalement, globalement, ce à quoi on assiste, c'est à une discrimination sociale. Mais enfin, en tous les cas, c'est...
Oui, moi, je suis pas absolument sur cette lecture-là. Je considère que c'est à la fois une question sociale et à la fois une question ethnique, et que on ne doit pas opposer les deux.
Malika.
Moi, je pense qu'elle est. C'est vraiment. Il y a une question sociale évidente. Après, quand je pense à la question ethnique, il y a un peu de ça en fonction des endroits. Enfin, les populations nouvelles qui arrivent, elle se retrouve toujours au même endroit, dans les lieux les plus dégradés, etc., où c'est le plus facile de rentrer. On a eu ça à toutes les époques. Donc, il y a des bâtiments où c'est pas une question de prix de loyer, parce que souvent d'ailleurs les plus mal logés payent très cher leur chambre pas terrible, mais qui accueille entre guillemets régulièrement des nouveaux arrivants, et ça devient très vite une question sociale, parce que pour rentrer dans la société il faut pouvoir y travailler, il faut pouvoir se loger, etc. Et je dis sociale parce que il y a du manque là-dedans. On manque de beaucoup de choses en banlieue, par exemple, ce qui est majeur, on manque de logement. Quand ce phénomène-là est partagé, et on manque de logements, les logements sont de plus en plus chers. Enfin, je veux dire, il y a le pendant, ça me paraît tellement évident à moi. Les logements, se loger, même à Ivry, même en plus grande couronne, ça devient très très difficile. Donc, les phénomènes de rejet, les gens, ils disparaissent pas, hein, ils se mettent dans des endroits. Moi, l'endroit où j'habite à Ivry, hein, c'est une cité HLM, je précise, parce que quand on parle de logement social, c'est bien de préciser de quoi on parle. Donc une cité où il y a des loyers HLM abordables. L'escalier extérieur, c'est un bâtiment sur 14 étages. L'escalier extérieur, ça fait 2 ans qu'il est squatté par des gens qui n'ont pas d'hébergement dans Paris. Il y a 30 personnes qui, depuis 2 ans, dorment dans les escaliers extérieurs. Quand on en arrive, enfin je veux dire, voilà, c'est prégnant comme ça. Alors, ces 30 personnes, en l'occurrence, c'est des Tunisiens, depuis les événements en Tunisie. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des gens qui arrivent, les adresses qui circulent, etc. On se regroupe, parce qu'on peut pas rester tout seul. Je vous raconte pas ce que ça crée dans la cité, dans les débats entre les gens, parce que c'est compliqué de rentrer chez toi à 2h du matin et de sentir l'odeur des brochettes au fond de ton couloir, ou la musique, ou des gens qui sont pas bien. Enfin, donc on est il y a une grosse question sociale, et puis il y a la question du chômage. Il y a des quartiers qui sont marqués au fer blanc, enfin des cités entières où le taux de chômage, le taux d'échec scolaire. Vous savez, regardez sur regardez un peu la composition des lycées d'enseignement professionnel en banlieue. Il suffit d'aller à une sortie d'école et on voit comment et on parle souvent de français, hein. Après, juste moi, sur issue de l'immigration, c'est pareil. Ça fait des choses qu'on nous répète depuis tellement longtemps. Moi, je sais pas combien de temps on est issu de. Quand on a fait des gosses en France, quand on est là, il y a des nous-mêmes, il faut qu'on arrive à. Excusez-moi, voilà.
Thomas, on parlait de la question du logement. On va pas rentrer dans tout l'historique de la politique de la ville, mais une des dimensions, et notamment dans les années 2000 avec le plan Borloo, c'est la rénovation urbaine. Donc c'est des logements à reconstruire, mais on en a détruit pas mal. Et pour autant, on
permettez quand même de revenir un instant sur le point précédent, parce que lorsque j'ai annoncé que, à mon sens, la question n'était ni exclusivement sociale ni exclusivement ethnique, je voudrais quand même expliciter ce que je voudrais dire par là. À l'évidence, il y a quelque chose qui a changé de façon radicale à partir du milieu des années 70, lorsque la France, de façon extrêmement rapide, s'est désindustrialisée, et que donc le socle économique de l'intégration des immigrations a commencé à se déliter. Et par la même occasion, on a vu que les solidarités ouvrières qui existaient dans ces quartiers, les modes d'expression politiques, syndicaux, associatifs, etc., ont commencé à se désintégrer eux-mêmes. Qu'est-ce qui a fait place à ça ? Dans bien des cas, c'est quand même un sentiment d'appartenance commune qui se structure autour de l'expérience du racisme et des discriminations. Et je crois qu'il ne faut absolument pas minimiser cette question. Il faut d'autant moins la minimiser qu'il faut se souvenir, et là ça nous rapproche peut-être de l'expérience américaine, qu'en France, il y a eu un véritable racisme institutionnel qui a conduit à la construction de lieux qui ont été spécialisés dans l'accueil de certaines populations de certaines origines. Et qu'on a commencé à parler de ghetto à partir du moment où les familles immigrées sont entrées dans le parc social ordinaire. Par le passé, Il y a eu toujours dans la ville des concentrations d'Italiens, de Polonais, etc., qui ont subi aussi le racisme et les discriminations. Sauf que la génération suivante, personne ne soulignait le fait qu'ils étaient descendants de Polonais ou d'Italiens.
Européenne.
Il y a quand même une vraie spécificité pour les immigrations qui viennent des ex-colonies françaises, c'est que, génération après génération, on continue de mettre les gens à cette place-là. Donc c'est un problème tout à fait persistant et qui a des effets majeurs, en particulier sur le marché de l'emploi.
Justement, on va revenir à l'occasion d'une pause musicale sur les premières années de la banlieue, sur la banlieue rouge, chantée par Renaud. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur les différentes mesures qui ont pu être mises en œuvre depuis les années 80, 90, quel bilan tu en tires? Voilà, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas eu énormément de résultats, mais tout n'est pas à jeter non plus.
Quoi. Oui, il n'y a jamais rien enfin, c'est compliqué. On peut pas dire il faut tout jeter comme ça. Non, il y a eu des choses qui se sont passées. On a même vu apparaître des sigles, enfin, je veux dire, parce que la banlieue, les quartiers ont été sacrément siglés depuis.
Il y a un paquet de sigles, on s'y perd même.
Un paquet de sigles, les UP, les ZEP, les US, les. Enfin, voilà.
C'est des insultes, non ?
Il y a eu un certain nombre de choses. Il y a eu des titres, il y a des spécialistes de la politique de la ville, il y a des élus qui se sont chargés.
Ministres.
Sur 30 ans, des ministres, etc., avec des ministres célèbres, même.
Les premiers.
Donc, il y a toute une série de gens qui se sont penchés là-dessus. Pour moi, je veux pas dire pour aucun résultat. La question elle est pas là. On peut pas voir les choses comme ça. Mais pour une situation qui demeure, avec, comme je vous disais tout à l'heure, des quartiers où ça allait mal, où ça continue à aller pas bien, des écoles qui fabriquaient de l'échec scolaire, qui continuent à fabriquer de l'échec scolaire, des populations qui sont en, pour un certain nombre, il ne s'agit pas de généraliser, mais en situation de solitude extrême. Enfin, moi, tout ce temps permis-là, enfin, souvent, ça me rend triste, quoi. Parce qu'on se demande, on a dit des choses qu'il fallait faire. On a, par exemple, moi, sur l'école, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Depuis des années, on dit qu'il faut envoyer les meilleurs professeurs dans les endroits où c'est le plus difficile. Et ben dans ces endroits-là, on continue à tasser.
On l'a jamais fait.
À 30 par classe, on ne l'a jamais fait. Et puis
des jeunes profs qui sortent,
les jeunes profs qui arrivent là-dedans, ça grimpe sur les tables. C'est la. Enfin, voilà, c'est des trucs tout bêtes. Là, on n'a pas besoin de révolution ou quoi que ce soit. Faire ce qu'on dit.
Thomas, qui a travaillé sur ces questions de politique de la ville. Est-ce qu'on peut tirer, je dirais, un petit peu des grandes tendances, des grandes périodes de cette...
Oui, alors, bon, ce qui caractérise cette politique, c'est qu'en fait, on a tenté des choses dans plusieurs directions, mais dans des directions souvent contradictoires. Dans les années 80, du moins au tout début des années 80, on était dans une logique...
C'est à ce moment-là que la question se pose, alors.
Non, la question, elle s'est posée déjà au début des années 70. Hein. Là, je parle de la politique de développement social des quartiers qui a été mise en œuvre après l'élection de François Mitterrand et après les émeutes des Minguettes. À l'époque, la tonalité dominante du discours, et là, c'était bien souvent uniquement un discours, consistait à faire l'éloge des quartiers populaires, voire l'éloge des quartiers ethniques, dans ce qui a constitué, à l'échelle de l'histoire française, une courte parenthèse où s'esquissait une forme de multiculturalisme à la française, avec pour toile de fond la marche pour l'égalité contre le racisme, la marche des beurs.
La marche des beurs, oui.
À la fin des années 80 et surtout au début des années 90, il y a eu un premier virage radical au moment où on se met à parler du modèle français d'intégration. Une notion qui n'existait pas auparavant et qui intervient Tout de suite après la première affaire du foulard à Creil en 1989. La gauche auparavant parlait d'insertion, la droite parlait d'assimilation ou d'intégration, et la gauche va se rallier à ce vocabulaire de l'intégration, et on finira par parler, 10 ans plus tard, de modèle républicain d'intégration. Bon, il y a eu des différences entre la droite et la gauche. La droite a mis l'accent sur des mesures hyper ciblées, hyper localisées, avec pour emblème les zones franches urbaines, un système de détaxation au profit des entreprises dans certaines zones, tandis que la gauche a développé un discours sur le droit à la ville, consistant à dire...
Plus globalisant.
Non, c'est-à-dire, c'était l'idée qu'il fallait prendre le problème à la bonne échelle et que les quartiers étaient les symptômes de dysfonctionnement et de mécanismes plus généraux qui produisaient ce type d'inégalité. Donc on a voulu prendre le problème à la racine en essayant de mieux répartir l'habitat social entre les communes et de favoriser une certaine mobilité des habitants pour accéder à des ressources qui n'étaient pas forcément dans leur quartier. Mais tout ça est resté assez rhétorique. Et dans les années 2000, droite et gauche se sont retrouvés autour de la même politique de rénovation urbaine que Mathieu évoquait il y a un instant. Rénovation urbaine, pour le dire rapidement, c'est la démolition de logements sociaux et leur remplacement par des logements sociaux plus haut de gamme, donc plus chers, et si possible par de la promotion privée. Tout ça en visant à attirer une population nouvelle que, dans l'esprit de beaucoup de décideurs, on souhaite être plus blanche que la population résidente. Alors, sur ces différentes périodes, finalement, rien n'a véritablement été très probant, ou on ne peut pas considérer qu'aucune de ces orientations n'ait été un succès.
Pourtant, il y a pas mal d'argent qui a été investi dans ces affaires-là.
Oui, surtout dans
on
la
sait
dernière...
combien
Non,
c'est 40 et quelques millions.
Alors, milliards, le programme national de rénovation urbaine est de ce chiffre est de l'ordre de 45 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable. C'est absolument considérable, mais son principal objectif, qui était de réaliser la mixité sociale dans ces quartiers, manifestement, n'a pas été atteint. Ou s'il a été atteint, ça n'est pas au sens où les promoteurs de cette politique l'entendaient, c'est-à-dire comme une façon de mieux répartir dans l'espace les populations immigrées, d'origine immigrée, habitant dans ces quartiers, puisque ce que l'on a vu, c'est que là où il y a eu de la promotion privée, là où on a créé des petites enclaves rénovées, en réalité, c'est des populations qui venaient soit des mêmes quartiers, soit d'autres quartiers similaires. Donc finalement, ces quartiers ont conservé leur image, leur réputation, en dépit d'une politique qui a été extrêmement onéreuse.
Malika ?
Oui, moi je suis d'accord, hein, je partage. Je voulais rebondir sur le terme mixité sociale, parce que dans les tartes à la crème des dernières années, je trouve que celle-là, elle est quand même assez fantastique. Hein. Aujourd'hui, on fait peser sur des gens dans les quartiers, sur les cités, le fait qu'ils ne seraient pas assez mélangés avec les autres. Enfin, ça se vit aussi comme ça dans un certain nombre d'endroits. Parce que quand même, quand on gratte bien, quand on réfléchit bien, quand on regarde ce qui se passe un peu en Île-de-France, Paris, proche banlieue, etc., un peu plus loin, la mixité sociale, c'est une histoire de territoire. Hein. C'est parce qu'il y en a. La politique foncière en Île-de-France, c'est pas n'importe quoi. Il s'est pas passé n'importe quoi dans les 20 dernières années. Tous les prix ont explosé. Vous avez un petit bout de terrain... Regardez, à Paris, vous avez un mètre carré, vous êtes riche. Dans le Marais, aujourd'hui, vous êtes riche. Donc, il y a beaucoup de ça en dessous. Il y a des grands, des puissants aujourd'hui qui aimeraient faire de Paris et de toute une partie de la banlieue. Et on le présente comme ça, d'ailleurs. Moi, j'ai entendu des politiques l'expliquer comme ça, dans le cas de Paris Métropole, avec le développement des transports. Eh ben, les populations qui n'ont pas assez d'argent pour payer des loyers chers à Paris et tout près de Paris, parce que c'est quand même une capitale financière, donc il faut vivre avec ça, et ben ils iront autre part, plus loin, dans l'Oise, par exemple. Donc voilà, pour moi, ce terme de mixité sociale, il recouvre ça. C'est ça qui l'induit. Le déplacement massif de populations, pas forcément en difficulté, hein, mais de milieux populaires, de gens... Donc, la moyenne des salaires, elle est à 1300 euros. Enfin, voilà, si on regarde le prix des loyers, c'est voilà, donc tous ceux qui ont un peu de mal à s'aligner sur les prix sur Paris, région parisienne, qu'on nous impose aujourd'hui, seront priés d'aller habiter ailleurs. Donc, moi, il y a un gros problème.
On parle de mixité sociale. Voilà, il n'y a pas que dans les quartiers populaires qu'il y a un manque de mixité sociale.
Oui, oui,
dans les villes riches, il y a aussi un manque de mixité sociale.
Exactement.
Mais
ils ont inversé. Besoin d'agrandir leur territoire. C'est à peine caricatural. Donc, et moi, la question que nous, on pose, par exemple, nous, à La Peste, c'est demain, qui sait qui va pouvoir continuer à habiter, y compris à Ivry-sur-Seine? Aujourd'hui, vous sortez un logement social, même PLA 9 de terre, vous avez des loyers à 900 euros. Je rappelle, la moyenne des salaires, c'est 1300 euros. Moi, je regarde autour de moi, il y a un nombre inconsidérable de femmes en situation seule avec des enfants, les fameuses familles monoparentales. Comment ça se passe? Comment ils font? Donc, cette question-là, elle est aujourd'hui prégnante. Les jeunes, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans les milieux populaires. Les jeunes quittent, s'en vont. Alors ils quittent pas la France, hein, ceux-là, c'est pas. Mais ils vont vivre ailleurs parce que c'est difficile et c'est trop cher.
On a bien sentiment, évidemment, on le savait avant de commencer la discussion, que ces politiques là menées sur les 40 dernières années ont eu un impact pour le moins limité. Ce sont des politiques qui ont quand même été très largement des politiques ciblées sur des territoires. Est-ce qu'il n'y a pas une question autour du ciblage des politiques? Est-ce qu'on doit pas, on reparlera peut-être dans la discussion qui suivra, mais est-ce que la question n'est pas plutôt celle d'avoir des politiques plus généralistes ou voilà, enfin autour de ça, qu'est-ce qu'on peut dire?
Il y a toujours eu l'idée dans la politique de la ville, et plutôt d'ailleurs chez les gouvernements de gauche, qu'on pouvait se passer d'une politique spécifique à condition de mobiliser à la hauteur de la situation les politiques dites de droit commun, c'est-à-dire les autres politiques publiques. Or, l'expérience montre qu'il est extraordinairement difficile de se passer d'une politique spécifique, parce que si on laisse les autres politiques publiques fonctionner de façon spontanée, elles vont avoir tendance à négliger ce type de quartier. Donc la fonction de la politique de la ville telle qu'elle avait été imaginée au départ, c'était justement une fonction de mobilisation des autres politiques publiques et de transformation des autres politiques publiques. Mais au fil du temps, ce qui s'est produit, c'est que cette politique s'est en partie substituée aux autres politiques publiques. Et donc, l'un des enjeux périodiquement réaffirmé de la politique de la ville consiste justement à organiser la mobilisation des politiques de droit commun.
Dit autrement, on se contente de mettre un cataplasme sur une jambe de bois, finalement. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des questions fondamentales et on s'occupe de
l'habitat, mais pas de politique sociale, pas de traitement du chômage.
Alors les choses sont un peu plus compliquées que ça, parce que...
On répare, disons.
La politique de la ville, jusqu'à présent, pour l'essentiel, c'est une politique de soutien financier au tissu associatif local. L'une des questions est de savoir si... le tissu associatif local remplit des fonctions utiles, nécessaires et qui contribuent ou pas à la promotion sociale, économique des individus. Cette question a été tranchée au début des années 2000 par Jean-Louis Borloo lorsqu'il a été ministre de la Ville et de la Rénovation Urbaine, en disant « tout ça, c'est du bricolage sans intérêt, je le laisse aux collectivités locales, moi je vais... m'intéresser aux choses sérieuses, et les choses sérieuses, c'était cette politique de rénovation, de démolition, reconstruction des quartiers. Je rappelle que...
Ça, c'est visible.
C'est visible, c'est spectaculaire, mais ça participe aussi d'une certaine représentation des banlieues comme étant un problème transitoire, provisoire, qu'il serait possible de régler grâce à une politique massive et bien conçue. D'ailleurs, Jean-Louis Borloo, au moment où il
préparé son plan de rénovation urbaine en 2003 et fait cette déclaration stupéfiante. Il avait dit « Moi, mon objectif, c'est que dans 5 ans, qui était la durée initialement prévue pour ce programme de rénovation urbaine, dans 5 ans, il n'y ait plus besoin de mon ministère de la ville. » Or, l'histoire montre que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et d'ailleurs, son plan a été prorogé de 5 années pour aller jusqu'en 2013. Et aujourd'hui, on vient d'annoncer qu'il était également prolongé jusqu'en 2020. En réalité, cette question est une question permanente. C'est une question permanente parce que ces quartiers remplissent une fonction dans la ville. Leur fonction première, c'est d'accueillir des ménages pauvres ou modestes parce qu'il y a une offre de logement de grande taille et bon marché. Et de ce point de vue-là, la politique de rénovation urbaine a été plutôt à contresens de ça, puisque, comme le disait justement Malika, elle aboutit à détruire un parc social très bon marché et du coup à limiter les possibilités des ménages qui en ont le plus besoin d'accéder au logement social. Là où j'émettrai peut-être un point de divergence, c'est que ce que l'on voit à travers les études qui ont été faites sur cette politique, c'est qu'il n'y a pas de déplacement massif des populations. Il n'y a pas de déplacement massif des populations. Il y a beaucoup de ménages qui ont été relogés dans quelque chose qui est soit égal à au logement qu'ils avaient quitté, soit moins bien. Mais généralement dans les mêmes quartiers. Mais on n'a pas vu, à la manière des opérations de rénovation urbaine telles qu'elles ont été conduites dans les centres-villes en France dans les années 60 en particulier, d'expulsion massive, à l'époque on disait déportation de population très loin de leur quartier d'origine.
Malika, tu vas intervenir ?
Oui, je ne parlais pas évidemment sur les opérations même, je parle d'un phénomène plus général. Plus général,
en fait, d'accord,
je veux dire,
d'accord.
Évidemment. Alors, par contre, moi, de ce que j'ai lu sur l'après l'ANRU, enfin, notamment, moi, j'ai suivi un peu ce qui s'était passé à Vitry autour de Balzac ou etc. C'est même j'ai en souvenir là, une discussion que j'ai eue il y a quelques mois avec un monsieur qui a habité Balzac pendant 30 ans. Enfin, je veux dire qui a été relogé, qui est très content, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits qui étaient difficiles. Seulement, après lui, sa vie, elle n'a pas changé. Il est au chômage aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il est au chômage, son fils est au chômage, etc. C'est mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Et c'est noté, enfin, c'est noté en, comme ça aussi. Enfin, tu peux changer de bâtiment, etc. La question sociale, elle demeure. Si derrière, tu n'as pas, pour la population, un saut qualitatif dans l'accès à l'emploi, la résorption de l'échec scolaire autour. Si tes collèges, ils sont pas requalifiés et tes écoles, tu continues, enfin je veux dire, cette impression, parce que tu le vis aussi comme ça, d'exclusion, d'être mis à l'écart, ça perdure malheureusement, ça perdure.
On va faire un second intermède musical et on revient après pour évoquer les différentes mesures que vous souhaiteriez voir mise en œuvre. On va écouter Grand Corps Malade avec une ville du nord de Paris.
Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord. Non. Moi, je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis.
Bien, écoutez, de nouveau Radio Fréquence Paris Pluriel avec nos deux invités, Malik Ezzediri, militante associative, et Thomas Kizboum, sociologue. On reprend un petit peu sur la dernière intervention des uns et des autres. On a maintenant, à peu près tiré un bilan ensemble de la politique qui a été menée sur ces 40 dernières années, disons 30-40 dernières années. Peut-être est-il temps maintenant de voir quelles sont les dernières réformes qui ont été mises en œuvre, et puis il nous restera un petit peu de temps pour essayer quand même de tirer nos propres conclusions de tout ça, voir un petit peu quelles seraient les mesures qui, selon vous, évidemment, hein, on a vu que les choses étaient extrêmement compliquées en la matière, mais qu'on pourrait essayer d'évoquer sur des réformes qu'il faudrait mettre en place et qui ne sont en tous les cas pas présentes dans l'actuelle réforme gouvernementale. Thomas ?
Oui, alors sur cette réforme, il y a quelques éléments qu'on peut souligner.
Le premier, c'est la volonté du ministre, qui n'est plus ministre aujourd'hui, François Lamy, de resserrer ce qu'on appelle la géographie prioritaire de l'État, c'est-à-dire le nombre de quartiers ciblés par cette politique.
Il y en avait 700 à peu près, hein.
Alors, il y avait 750 ZUS, aujourd'hui on est à 1300. Donc, en termes de resserrage, c'est pas absolument probant. Il y a un resserrage par rapport à une autre liste de quartiers qui montait jusqu'à 2500, mais en réalité, la plupart de ces quartiers étaient relativement fictifs et ne recevaient pas d'aide particulière. Bon, il y a plusieurs raisons au caractère inflationniste de cette géographie prioritaire. L'une de ces raisons, c'est que là, on a voulu introduire plus de transparence, de lisibilité, et donc on a choisi un critère unique,
qui est celui
de la pauvreté monétaire à la place d'un composite de différents critères. Et ce faisant, on a étendu la géographie prioritaire à des lieux qui étaient traditionnellement peu concernés par la politique de la ville.
Voire ruraux.
Oh.
On a parlé de Guéret, par exemple, dans la Creuse.
Absolument. Et il y a un message politique derrière ça. Bon, on parle beaucoup en ce moment des thèses du géographe Christophe Guilluy sur les territoires abandonnés par la République, que seraient les territoires dits...
plus ruraux, quoi.
Dits ruraux.
Périphériques.
Ou périphériques. Je pense que le message politique de François Hollande et de François Lamy, c'était un message adressé en réalité à ceux qu'on peut appeler les petits blancs qui considèrent qu'on fait trop avec cette politique de la ville pour on fait trop pour les Arabes et pour les Noirs, hein, pour dire les choses comme ça. Et du coup, on a essayé de diluer cette politique dans quelque chose de plus vaste. Bon. Cette réforme de la géographie prioritaire, il me semble qu'elle est assez critiquable sous plusieurs aspects. D'une part, on a mis au moins 2 ans à publier la liste des quartiers concernés. Du coup, il ne s'est pas passé grand-chose pendant ce temps. Tout le monde était suspendu à la publication de cette fameuse liste. Et d'autre part, il me semble que malgré l'annonce de la fin des zonages, en réalité, on a recréé un nouveau zonage. Et du coup, on est quand même en porte-à-faux avec un autre élément majeur de la réforme. Et l'on revient à notre discussion précédente. Cet autre élément, c'est l'idée de mobiliser l'ensemble des politiques publiques à la bonne échelle, qui est celle des agglomérations, des intercommunalités, pour pouvoir avoir une prise sur les politiques dites structurantes, de l'habitat, des transports, du développement économique, etc., etc. Or là, avec ce recentrage, cette focalisation sur des tout petits périmètres, finalement, on s'interdit de penser les choses de façon plus global et également de façon plus dynamique, en considérant que il s'agit pas de faire des quartiers comme les autres en donnant exactement les mêmes moyens qu'à d'autres quartiers, parce qu'il n'y a pas de quartiers comme les autres. Après tout, on s'interdit de penser la mobilité des habitants, comment ils accèdent à des ressources en dehors de leur quartier. On s'interdit également de penser la réforme des différents services publics, de la police, de l'éducation nationale, de la justice, du service public de l'emploi, qui, dans leur fonctionnement, ont des effets inégalitaires, des effets de mise à l'écart d'un certain nombre de populations.
Ce que tu viens de dire, je pense que ça doit tout à fait résonner pour Malika.
Oui, je partage, pas dire malheureusement, mais je partage complètement. C'est assez décevant. Et c'est encore, enfin moi, de ce que j'ai lu, hein, je suis pas une... Enfin, je suis une spécialiste à travers ce que je vis, mais de ce que j'ai lu, parce que ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, c'est les institutions qui parlent aux institutions, mais ça parle plus aux populations. C'est une affaire de spécialistes. Et pendant ce temps, ça continue. C'est-à-dire, sur les mêmes endroits, on fabrique les mêmes phénomènes ségrégationnistes. On fabrique, je disais, parce que moi, voilà, ça, c'est destructeur de penser comme ça. On continue à fabriquer l'échec scolaire de demain, les difficultés, etc. Il y a des familles, c'est les combines qu'on se passe comme héritage, quoi. Voilà.
En
moi,
temps, je voudrais
très en
revenir...
attente de la gauche. Enfin, je veux dire de d'action politique là-dessus, claire, enfin, et large, avec des mobilisations à partir du local, quoi. Un autre regard, y compris sur ses habitants.
En même temps, j'ai trouvé intéressant quand, au début de l'émission, tu as démarré en nous disant, finalement, bien sûr, il y a une une représentation des quartiers qui est particulièrement négative. Mais moi, j'aimerais bien aussi développer une autre représentation des quartiers, c'est-à-dire des gens qui, quelque part, ils sont bien, ont des projets. Ça aussi, c'est important, je crois, quand même.
Ben oui, parce que sinon... juste en quelques minutes, sur Ivry, il y a une association absolument magnifique.
C'est peut-être le moment un peu de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pourraient faire, par tout ça.
Donc, c'est des jeunes qui ont créé ça, mais alors, ça fait 20 ans. Maintenant, ça s'appelle les bergers en scène. C'est une association d'éducation populaire faite par les membres des quartiers. Et vous avez 500 gosses des cités à Ivry qui font du théâtre. Ils font du théâtre 3, 4, 5 fois par semaine. Ils ont créé leur centre de loisirs. Enfin, je veux dire, et je, pour employer une image, tous les petits beurs et les petits blacks que vous pouvez voir en bas des cités à Ivry, ils sont tous dans cette association et ils font du théâtre, etc. Et depuis 20 ans, enfin, je veux dire. Et ça a sorti, ça a donné des perspectives à toute une série de jeunes comme ça. Enfin, je veux dire, ça règle pas tout. Mais ça donne à voir qu'il y a des choses possibles avec les premiers concernés. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'il faut donner aussi les moyens aux hommes et aux femmes qui font ces endroits de pouvoir intervenir sur leur vie. C'est au plus près que ça doit se régler, ça, et sortir. Enfin, je veux dire, il faut plus que des citoyens, il faut faire confiance aux habitants.
C'est peut-être ça. Je crois que voilà, Thomas, je crois que dans un article que j'ai lu dernièrement, tu as écrit dans la Gazette des Communes, cette question de la participation, tu l'abordes, je crois, justement, non?
Alors, je sais pas si c'était dans cet article-là. Je voudrais revenir un instant sur la réforme là qui est engagée depuis 2 ans sous cet aspect-là, justement. Parce qu'il me semble que, bon, si elle est insuffisante probablement à différents égards, au moins il y a un point sur lequel il y a eu une inflexion quand même pas négligeable par rapport en particulier à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, où on avait quand même affaire de la part des plus hautes autorités de l'État, un véritable discours de guerre civile en direction des populations de ces quartiers. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître au ministre le mérite, même s'il est symbolique, mais la symbolique n'est pas sans importance dans cette matière, d'avoir eu un discours où, à plusieurs reprises, il a dit qu'il fallait reconnaître ces quartiers, il fallait reconnaître les gens là où ils étaient. Et donc, il y a eu là-dessus quelque chose d'intéressant, même si, en réalité, il y a peu de traductions concrètes. Le ministre a mis au cœur de sa réforme la volonté de faire ce qu'on appelle de l'empowerment, ou de développer ce qu'on a, dans la traduction française, le pouvoir d'agir des habitants. La réforme avait été engagée sur des rails extrêmement technocratique, comme on a l'habitude dans la politique de la ville, et puis face aux critiques, il a décidé de confier une mission à la sociologue Marie-Hélène Baquet et à Mohamed Meshmash, qui est le leader d'une association qui est née à Clichy après les émeutes de 2005, assez le feu. Bon, les concrétisations par rapport aux propositions extrêmement audacieuses et radicales de leur rapport, les concrétisations vont être très minces, puisque le législateur a décidé de rendre obligatoire dans tous les quartiers la création de ce qu'on va appeler des conseils citoyens. Or, le fait que ce soit obligatoire partout, justement, montre bien qu'on est dans la continuité d'une certaine idée de la démocratie participative, qui est une démocratie très institutionnalisée, très étroitement contrôlée par les municipalités, et où les habitants sont invités à s'inscrire. Par ailleurs, je voudrais quand même mettre un bémol dans l'éloge que je viens de faire de l'action du ministre Lamy, parce que son discours et le message national étaient quand même un petit peu contradictoires, puisqu'il a continué par ailleurs à dire qu'il fallait casser des ghettos, qu'il fallait changer le peuplement de ces quartiers. Du coup, on avait le sentiment que les habitants qui habitent là ne sont pas tellement légitimes à être là où ils sont. Mais sur la rénovation urbaine à proprement parler, là on a quelques inflexions intéressantes, puisqu'il est maintenant question de co-construire les projets avec les habitants, quid du pouvoir de décision, ça c'est une autre affaire. Il est également question d'une approche plus globale, ce qu'on appelle le projet urbain intégré, où l'on va traiter à la fois des aspects urbains, sociaux, économiques. Et puis surtout, je crois que le plus important, c'est que pour la première fois, on va laisser le temps aux acteurs locaux de construire, de fabriquer leurs projets sans être dans une espèce d'urgence comme à l'époque de Jean-Louis Borloo, qui maintenait l'illusion, qui est en réalité une illusion collective dans la société française, que on pourrait, une fois pour toutes, en finir avec ce type de quartier.
Et qu'est-ce qui manque selon toi dans cette loi? Quelles sont les mesures principales qui vont pas tout résoudre, mais qui sont manquantes dans cette dernière réforme selon toi? Et puis on terminera avec un mot de Malika.
Moi, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour la politique française, surtout si on la compare avec ses homologues européens ou nord-américains, c'est de sortir d'un certain registre qu'on pourrait appeler le paternalisme. Et ça, c'est compliqué, parce que c'est une affaire de représentation, c'est une affaire de relation entre les pouvoirs en place et les minorités dans les quartiers. Le message des pouvoirs publics, en gros, c'est « soyez dociles », et on va s'occuper de vous. Mais on est depuis maintenant 30 ans dans un cycle perpétuel de promesses et de déceptions. Donc à un moment donné, il faut sortir de là. Et il me semble qu'il est très important que les quartiers se dotent d'une expression propre, indépendante, autonome. Et c'est ça d'ailleurs qu'essayent de faire aujourd'hui les promoteurs du rapport Bac et Mèche-Mâche à travers une coordination citoyenne qui s'intitule significativement Passons-nous.
Malika, peut-être pour, si ce n'est conclure, en tous les cas,
le mot de la fin,
cette émission.
Moi, je vais être très terre à terre. Hein. Il faut mettre de l'argent dans les quartiers. Bon. Il faut mettre de l'argent pour réparer. Enfin, si on veut pouvoir rattraper, il y a des endroits où il faut réparer, où il faut aider, où il faut soutenir les familles. Il y a besoin de lieux, il y a besoin de locaux, il y a besoin d'endroits où on peut se réunir librement. Il y a besoin de régies sur les quartiers pour pouvoir mobiliser, que les populations puissent mobiliser des fonds pour investir. Enfin, voilà, il y a ce type de besoin. Et puis après, il y a besoin de tenir les promesses qu'on fait. Hein. Moi, je redis sur l'école. Il y a toujours besoin d'envoyer les meilleurs professeurs là où c'est le plus difficile. Faisons-le.
Ça, on voit bien que c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de volonté. Ça coûterait pas
Il faut qu'on s'organise collectivement pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Sinon, on peut se réunir encore dans quelques temps et on fera les mêmes constats. Or, on sait bien que on avancera tous ensemble là-dessus. Et les générations qu'on est en train de former aujourd'hui, c'est trop important. Faut arrêter de prendre du retard.
Voilà, c'était le mot de la fin. L'émission se termine là. Vous pouvez la retrouver sur le site de la Fondation Copernic. Le prochain numéro de Mode d'emploi animé par la Fondation Copernic, ce sera le quatrième vendredi d'octobre, le 24, avec une émission consacrée au commerce équitable. Bonne soirée à tous. On se quitte sur un morceau de Shuriken, Où je vis.
Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant qu'ils sont là? Bienvenue, ça fait longtemps.